Chapitre 16e. Ce qu'on doit aimer. Entouré de magnifiques jardins, le palais Constantin était bâti à l'extrémité d'une langue de terre à l'endroit où le Bosphore se confond avec la Propontide. Une haie touffue de lauriers toujours verts bordait le jardin du côté de la mer. Des platanes, des sycomores abaissaient leurs rameaux jusqu'à la surface de l'eau, tandis que des pins élancés, des cèdres aux ports superbes élevaient leurs branches hardies et leurs sombres feuillages au-dessus de tous les autres arbres. De place en place, la haie de laurier était coupée par de larges escaliers de marbre ornés de statues de nymphes et de dieux marins. Ces escaliers descendaient jusqu'à la mer où les barques étaient amarrées. C'est là qu'Eudoxia emmena l'empereur. La barque impériale était ornée de sculptures et toutes dorées. Des tapis couvraient le pont. Les sièges étaient garnis de coussins de soie pourpre. Un large baldaquin de soie blanche, soutenu par des montants dorés, couvrait tout l'arrière plus élevé que le reste du bateau. L'empereur y prit place. Eudoxia s'assit auprès de lui. Elle tenait Marina, sa plus jeune fille, sur ses genoux. Ses autres enfants, un garçon et trois filles, se pressaient autour d'elle. Eudoxia était rayonnante de beauté, d'amour et de bonheur. Telle fut l'impression qu'elle produisit sur Arcadius. Elle avait pour lui un charme irrésistible. Les rameurs vêtus de blanc s'assirent à leur poste à l'avant du bateau. Déployant toutes leurs forces, ils se mirent à fendre vigoureusement les flots, et la barque impériale glissa sur la plaine liquide avec la rapidité que la fable attribue aux monstrueux oiseaux de mer. Arcadius perdit de vue tous ses ennuis, tous les soucis du gouvernement. Mais Eudoxia n'oublia pas de profiter de ses bonnes dispositions pour le succès de ses plans personnels. Les autres barques étaient occupées par les dames d'honneur de l'impératrice et les chambellans. Parmi ces derniers se trouvait Amoncius. Il était de plus en plus haut dans la faveur d'Eudoxia, qu'il avait nommé grand chambellan. Les contrastes harmonieux, indépendamment de la beauté morale qu'ils impliquent, rendent un caractère intéressant et quelquefois grand. Discordant, au contraire, ils rendent capricieux, incertain, même dans ses bons mouvements. Ce dernier cas se vérifiait dans Eudoxia. Elle avait une haute estime pour Amoncius. Elle pouvait d'autant moins s'empêcher d'admirer son désintéressement, sa simplicité, sa droiture, qu'elle était assez fine pour voir combien ses qualités manquaient aux personnes de son entourage. Mais en échange, elle possédait un talent dont Amoncius n'avait pas le moindre soupçon et dont Eudoxia faisait aussi un très grand cas. Elle savait flatter par leurs paroles, par leurs actions. Eudoxia s'enivrait de l'encens qu'on lui offrait, comme à une divinité. Elle le recevait d'autant plus volontiers qu'elle se croyait offensée par ceux qui négligeaient de lui en présenter. Amoncius seul était accepté. Quand elle était de bonne humeur, il pouvait se permettre certaines petites observations qu'elle n'aurait tolérées de personne, sans colère, excepté peut-être de Gunhild. Mais cette indulgence pour Gunhild avait une autre cause. Gunhild, avec son caractère fier, inflexible mais sincère, lui imposait. Cette ligne droite et ferme au milieu des circuits et des détours de la vie égoïste et du monde lui semblait quelque chose de merveilleux. Ajoutez à cela son vif désir de voir Gunhild quitter l'arianisme pour embrasser la foi chrétienne, et enfin l'intérêt qu'elle prenait au sort de cette jeune fille. Un sentiment reconnaissant pour Gainas qu'il avait puissamment aidé à renverser Eutrope se changea en tendre intérêt pour sa fille devenue orpheline. Gainas n'avait pas été satisfait du bannissement d'Eutrope. Il insista pour que le malheureux fût exécuté et il arracha d'Arcadius son arrêt de mort. Mais la place de favori qu'il chercha à obtenir également était trop fortement occupée par Eudoxia. Alors son ambition alla plus loin. La pourpre impériale devint l'objet de sa convoitise. Commandant en chef, il se souleva avec son armée en Bithynie, mais il fut trompé dans son attente. Un maréchal de camp resta fidèle à l'empereur. Gainus fut battu. Il s'enfuit en Mésie, où il tomba entre les mains des Huns, ses ennemis, qui le mirent à mort. Sa tête fut coupée et envoyée à Constantinople, où elle excita des transports de joie parmi le peuple, qui n'avait pas oublié qu'autrefois Gainas avait livré la ville au pillage de ses Goths. Gunhild souffrit extrêmement. Son père avait été son idole. Être goth et être noble étaient synonymes pour elle. Aussi tenait-elle passionnément à sa nationalité et à sa foi. L'arianisme devait être la vraie religion, puisque c'était celle des Goths. Ainsi raisonnait-elle. Gunhild aurait voulu être loin de Constantinople, dans la Thessalie, sur les bords ombreux du Danube, où elle avait passé les premières années de son enfance. Là, elle s'imaginait trouver l'idéal que son âme rêvait. Mais la révolte de son père mit tristement fin à ses rêves et à sa croyance dans la perfection de la race gothique. Autrefois, quand les Romains et les Grecs parlaient avec mépris des barbares, elle relevait fièrement la tête. Un barbare, disait-elle, a conservé au fils de Théodose le trône de l'Empire d'Orient auquel Ruffin aspirait. Un barbare a délivré les marges du trône d'un indigne favori qui s'appelait Eutrope. Mais après que son propre père eut criminellement ambitionné la pourpre, Gunhild pleura sa conduite beaucoup plus que sa mort, elle reconnut que les Goths pouvaient succomber aux mêmes tentations, tomber dans le même précipice que les Grecs, que ni la religion arienne, ni le sang ne leur donnaient un brevet de perfection. Et dans son désespoir secret et silencieux, elle se demandait « Que puis-je aimer maintenant? Que puis-je honorer ?» Elle ne désirait plus retourner dans les établissements gothiques de la Thessalie. Elle attachait plus d'honneur à rester auprès de l'impératrice et à racheter l'infidélité de son père par son dévouement. Mais comme, en aucun point, sur aucun sujet, elle ne pensait ni ne sentait comme les autres personnes de son entourage, et qu'elle n'avait rien à quoi elle pût s'attacher, elle se trouvait dans un isolement dont le poids remplissait parfois son jeune cœur d'une profonde mélancolie. Eudoxia désirait vivement arracher Gunhild à l'hérésie. Souvent, elle lui disait que l'arianisme n'était pas le vrai, le parfait christianisme. Autrefois, Gunhild eût soutenu le contraire, mais elle ne parlait plus ainsi. Elle disait maintenant que l'arianisme et le catholicisme étaient bons tous deux, si on les pratiquait bien, et rien de plus. Elle refusait d'aller à l'église, d'autant plus qu'elle éprouvait une profonde antipathie contre le patriarche. Son père avait demandé la permission d'élever un temple arien dans la ville de Constantinople, et Arcadius allait céder. Mais le patriarche s'était mis en travers, en déclarant que l'empereur pouvait reconnaître de grands services par de grandes récompenses, mais non par une dérogation arbitraire à la loi. Or, Théodose avait, par une loi, interdit tout exercice public des cultes dissidents dans les villes de l'Empire, et il n'y avait aucune raison d'établir une exception pour les Ariens. Et Chrysostome l'avait emporté. Gunhild essaya de voir dans ce refus le motif de la révolte de son père, mais sa droiture se refusait à admettre une pareille excuse qui n'était pas sérieuse. Cependant, elle ne put vaincre son antipathie contre Chrysostome, sans toutefois prendre part aux hostilités qui, trop souvent, éclataient contre lui dans l'entourage même de l'impératrice. Dans ce cercle, Gunhild était comme un élément étranger, un être à part. Personne ne comprenait pourquoi elle n'était pas enjouée, pourquoi elle n'aimait pas la toilette, pourquoi elle ne cherchait pas à se faire donner par l'impératrice des bijoux, des présents de toutes sortes, ou même à se ménager par elle un brillant mariage. Eudoxia était généreuse pour ses favoris, ses flatteurs et ses amis. Si elle ne leur donnait pas son or, elle n'en avait jamais trop pour elle-même, elle leur donnait des places, de l'avancement, des emplois lucratifs. Toute la cour savait cela. Chacun profitait pour soi-même et pour ses amis et protégés, de sorte que Eudoxia était comme une source de faveur qui, par mille canaux, se répandait sur tout l'Empire. Ce système donnait naturellement lieu aux plus criantes injustices. Des hommes innocents étaient faussement accusés, et sans examen sérieux, dépouillés de leurs biens que Eudoxia s'appropriait. Elle recevait volontiers les parures de grand prix, en signe d'hommage et de respect. Pour en marquer sa reconnaissance, elle donnait à ceux qui lui offraient ses présents des emplois qu'elle enlevait à d'autres. Gunhild voyait et devinait tout cela. Elle se tenait en dehors de ses luttes, de ses poursuites après la fortune qui n'avait aucun attrait pour elle. On la demanda en mariage, elle refusa, disant qu'elle était contente dans sa position. Aujourd'hui, elle se trouvait dans la même barque avec Amantius, qui avait beaucoup d'égards et de compassion pour cette jeune créature isolée, mais qui avait rarement l'occasion de s'approcher d'elle. « Ferez-vous avec nous, noble Gunhild, le pèlerinage de Dripia ?» lui demanda Amantius. « Je ne le ferai qu'autant que l'impératrice désira que je l'accompagne, » répondit-elle. Mais comme sans doute un grand nombre de dames demanderont à en être, j'espère que j'en serai dispensée. Mais dites-moi, connaissez-vous la maxime de l'Académie qui dit qu'aucune proposition n'est irréfutable ? Je la connais, répondit-il en riant. Et elle ne vous plaît pas ? Demanda-t-elle de nouveau. En tant que problème de philosophie, axiome sophistique, cette maxime est juste. Mais comme j'ai peu le temps de m'occuper de semblables questions, Je n'attache pas une grande valeur aux discussions sur le pour et le contre. Je pensais que vous attachiez une grande importance à la connaissance de la vérité.
Oui, dit Amancius,
mais la vérité absolue se trouve dans une autre sphère et n'est touchée par le doute qu'autant qu'il peut servir à prouver son immuabilité. Ainsi, cette maxime de l'Académie ne vous satisfait pas.
Pas plus qu'elle ne peut vous satisfaire vous-même, noble Gunhild.
Un esprit droit et sensé désire la certitude. Il peut être dans le doute, comme le voyageur qui passe un pont suspendu au-dessus de l'abîme pour arriver à la terre ferme, mais il n'y reste pas. Cependant, s'il craignait les désillusions, et où n'y en a-t-il pas ?
Cela serait une faiblesse,
répondit-il. La vie est une chaîne de désillusions sur nous-mêmes et sur autrui.
Oh, c'est affreusement triste,
dit Gunhild en couvrant son visage de ses deux mains pour cacher les larmes qui s'échappaient de ses yeux.
Cela dépend, répondit-il avec douceur.
Les illusions sont les entraves qui enchaînent nos pieds, qui détournent nos yeux de la vérité ou de la recherche du vrai. Est-il triste que ces chaînes, que ces bandeaux soient écartés ?
Vous parlez comme un homme qui n'a pas vu son idéal tomber en poussière,
dit-elle.
Si notre idéal est d'accord avec la vérité éternelle,
répondit Amancius, il ne tombe pas en poussière.
Quand cela arrive, l'idéal n'était qu'une illusion, un rêve.
Que l'on a aimé,
interrompit Gunhild avec tristesse.
Que n'aime-t-on pas quand on ne sait pas ce qu'on doit aimer,
reprit-il.
Et il semble que personne ne le sache, à en juger par les objets auxquels les hommes attachent leur cœur,
répondit-elle d'un ton animé.
Cela est juste,
dit Amancius avec calme.
La soirée était magnifique. Le souffle embaumé du printemps, la douce lumière du ciel, donnaient un charme magique à toute la nature. Les rivages de la Propontide s'élevaient comme des parterres de fleurs au-dessus des flots azurés. En tournant les yeux du côté de la Thrace, on voyait la ville dans toute sa magnificence, comme une belle sultane d'un conte oriental, baignant ses pieds de marbre dans la mer. Plus loin, du côté de la Bithynie, s'élevait la blanche cime de l'Olympe, semblable à un fugitif qui quitte la terre belle et resplendissante pour monter dans les cieux plus resplendissants, plus beaux encore. Mais personne ne contemplait ce ravissant spectacle. On jasait, on riait, on avait mille sornettes à dire et à écouter.
« Vous êtes devenue silencieuse, Gunhild, » dit une jeune demoiselle de la cour en se retournant et en mettant la main sur l'épaule de Gunhild.
Celle-ci était tranquillement assise sur un coussin peu élevé. Les genoux dans les mains, elle regardait d'un air rêveur le spectacle féerique que cette enivrante soirée déroulait à ses yeux.
« À quoi pensez-vous donc pour être si sombre ?» reprit Aglaé.
« Oui, à quoi pensez-vous ? »
« À quoi pense la noble Gunhild ?» demandèrent les dames réunies sur le pont.
« Je pensais que je voudrais bien savoir ce que l'on doit aimer, » répondit-elle.
« Ce qu'on doit aimer ? Oh, beaucoup de choses ?»«
Non, non pas beaucoup de choses, mais beaucoup. » »«
La beauté, le bien, ses amis et ses ennemis, comme dit l'Évangile. »
Ces diverses réponses partirent de tous côtés comme un feu roulant.
« Tout cela vous suffit-il ? » reprit Aglaé.
« Ou bien une de ces choses vous suffit-elle ? »
Pour toute réponse, Gunhild secoua négativement la tête.
« Elle n'est pas facile à contenter, » dit Aglaé en se tournant vers la société. « Et je trouve étrange qu'on réfléchisse si profondément à ce qu'on doit aimer, car il est dans la nature de l'homme d'aimer ce qui lui paraît aimable. »
Cette réflexion ramena la conversation dans sa voix frivole.
Cependant, la barque impériale avait donné le signal du retour. On approchait du rivage. Alors Amancius, qui était resté aussi silencieux que Gunhild, lui adressa la parole.
« Me permettez-vous aussi à moi de faire une réponse à votre question de tout à l'heure ?»«
Pourquoi pas ? » demanda-t-elle étonnée.
« Parce que souvent ce que je dis paraît vous blesser. »«
Dites, je vous en prie, » fit-elle en rougissant.
« Vous demandez, noble Gunhild, ce qu'on doit aimer.
Je vous réponds, l'amour éternel. »«
Quel doux mot, l'amour éternel, »
dit Gunhild.
« Mais qui nous répond qu'un pareil amour appartient à l'idéal et non aux illusions ?»«
La vérité éternelle. »«
Celui qui doute de cette vérité, Amancius, a besoin d'une garantie supérieure. »«
Il n'y en a pas. »«
Mais je puis m'exprimer autrement et dire, cette garantie nous l'avons dans le Christ, le Fils de Dieu. » Qui est l'amour éternel et l'éternelle vérité.
Si je croyais cela, je serais catholique,
et vous savez que je suis arienne,
répondit-elle froidement.
Je le sais, mais je n'y vois pas de raison pour vous refuser une réponse claire et simple.
« Si votre foi, dit Gunhild, vous fait connaître mieux que nous l'éternel amour, pourquoi donc ne l'aimez-vous pas plus que nous ?
Quand on considère le monde qui nous entoure et qui est plongé dans l'admiration et la jouissance des choses matérielles et extérieures de l'existence, peut-on conclure que ce monde est éclairé par la lumière de la vérité, qu'il est échauffé par la divine flamme de l'amour ?
Assurément non. Cependant la vérité et l'amour sont sur la terre. Leur influence ne peut se faire sentir qu'à ceux dont le cœur n'est pas fermé ou endurci.
Voyez là-bas cette maison, avec cette belle terrasse au bord de la mer.
Elle est habitée par une femme qui a su mettre le monde sous les pieds et posséder de grands biens sans en jouir, et cela pour l'amour éternel.
Quelle est cette femme merveilleuse ? Demanda Gunhild avec un vif intérêt.
Elle s'appelle Olympia, répondit Amensus.
Olympia, dit lentement Gunhild.
Il y a quelques années, on parlait d'elle et de son esprit élevé.
Dans une circonstance passagère, elle a fait impression sur moi.
Maintenant, elle appartient à la coterie des disciples fanatiques du patriarche, et on ne sait plus rien d'elle.
Dans votre entourage, peut-être, dit Amensus en riant, mais vous pouvez être assuré qu'on sait d'elle énormément de choses.
Ces perfections austères n'ont aucun prestige pour moi, dit Gunhild d'un ton sec.
La promenade était terminée. En rentrant au palais à côté de l'empereur, Eudoxia appela Amensus.
« Allez chez le patriarche, lui dit-elle, et demandez-lui si le pèlerinage de Dripia n'aura pas lieu bientôt. J'ai hâte de voir venir ce jour. »